J'ai rencontré Magali pendant le premier confinement. On promenait nos enfants à la même heure et on a vite copiné. Je savais qu'elle avait été victime des attentats du 13 novembre 2015, qu'elle était ce soir-là sur la terrasse de la Belle Équipe, qu'elle avait été gravement blessée et qu'elle avait perdu des amis, plusieurs amis. Je le savais, mais on n'en a pas parlé tout de suite.
Le code a changé.
Je crois que la première fois qu'on en a discuté, c'est l'été qui précédait le procès des attentats, en août 2021. Elle était enceinte de son deuxième enfant, et je lui ai demandé si ça n'était pas trop difficile de devoir à nouveau affronter tout ça. Elle m'a répondu très simplement que, pour elle, de toute façon, c'était difficile tous les jours. Alors oui, elle appréhendait le procès, mais ce qui était plus difficile encore, c'était la crainte que disparaisse des mémoires ce qui, elle, la hantait à chaque instant. En ce sens, elle attendait aussi le procès. Peu avant qu'il ne commence, tout début septembre, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas témoigner. Elle n'en éprouvait pas le besoin et qu'elle n'était même pas encore certaine de vouloir y assister. En revanche, elle allait l'écouter à la web radio. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y allait avoir une web radio du procès du 13 novembre. V13, comme on dit. Dans les mois qui ont suivi, une fois le procès commencé, on a échangé quelques textos, pas beaucoup. Mais à chaque fois, Magali me racontait qu'elle passait ses journées chez elle, à écouter les audiences, des heures, des jours, des semaines, à entendre les témoignages des victimes, des forces de l'ordre, à entendre les enquêteurs, les magistrats, les avocats, et évidemment les accusés. J'avoue que ça m'a beaucoup intrigué. J'arrivais pas à me figurer quelle expérience c'était pour elle. Mais je voulais pas non plus la saouler avec ça. Et puis, je pensais que ce serait raconté un jour, par des journalistes ou des chercheurs. Eh ben, plus de 3 ans après la fin du procès, il n'y a toujours pas eu grand-chose sur la web radio. À moins que ça m'ait échappé, je trouve que de rapides évocations à droite à gauche. Et ça m'étonne. Ça m'étonne parce que, outre la question de savoir comment l'a vécu Magali, et les centaines d'autres personnes qui, j'imagine, ont écouté la web radio du procès, son existence même pose plein de questions. Pourquoi on a décidé de mettre en place ce dispositif? Pour la première fois de l'histoire de la justice française, hein. Qui en a eu l'idée? Comment on s'y est pris, juridiquement et techniquement? Je sais que seules les parties civiles y avaient accès, c'est-à-dire les victimes, les endeuillés, les impactés, mais pourquoi elles seules? Et pas les avocats, par exemple. Est-ce qu'on a pris des précautions de sécurité, ou même psychologiques, pour que les gens ne soient pas laissés seuls avec leur écoute? Est-ce que ça a changé quelque chose au procès? Pour moi, un procès, c'est un rituel qui a une unité de lieu, de temps. Ben là, c'était plus le cas. Bon, bref, il y a beaucoup de choses à interroger quand même. Donc, je me suis dit qu'il fallait raconter cette histoire dans le code à changer. Parce qu'après tout, la web radio de V13, c'est l'histoire d'une rencontre entre un événement historique et une possibilité technique. Le tout dans cet espace-temps si particulier qu'est un procès. Et à l'occasion, en plus, d'un procès qui a marqué non seulement l'histoire de la justice, mais celle du pays tout entier. Et pour raconter cette histoire, eh ben, commencer avec Magali s'impose. Parce que c'est d'elle que tout est parti, et que jusqu'à maintenant, je me suis retenu de lui poser toutes les questions que depuis les quelques textos qu'elle m'a envoyés pendant le procès, j'ai envie de lui poser. Pourquoi elle a préféré la web radio à l'audience? Comment elle l'a écoutée concrètement? Seule, chez elle, dans la rue? J'ai envie de savoir tout ça. Et Magali, elle, elle est d'accord pour me le raconter. Ça va bientôt faire 10 ans que ces attentats ont eu lieu, et que sa vie a basculé. C'est peut-être le moment. Et donc, un début d'après-midi, eh ben on se retrouve dans un studio de la maison de la radio et on s'y met. On va repartir du début.
Il faut faire connaissance.
Voilà. Alors, Magali. Tu te souviens quand est-ce que tu as su que ça existait, cette web radio? Tu t'en souviens de ça?
Oui, c'est mon avocate qui m'a fait part de cette web radio. Parce que assez vite, je lui ai dit que je n'allais pas pouvoir venir au début du procès. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et le terme était fin septembre 2021. Et le procès a commencé début septembre. Et donc, mon avocate me parle de la web radio. Et pas longtemps après, j'ai eu mes codes d'accès.
Et est-ce que tu te souviens, quand est-ce que tu l'as branchée la première fois?
Je l'ai branchée dès le début. J'ai essayé de me connecter pour voir si ça fonctionnait. Ensuite, tu crées un mot de passe personnalisé. Dès le premier jour, en fait, j'ai écouté.
Est-ce que tu te souviens où t'étais?
Ouais, j'étais dans mon appartement à Paris. J'étais chez moi, dans mon salon. Et j'ai écouté sur mon ordinateur.
Tout haut ou avec un casque?
Non, en tout haut, en haut-parleur. j'ai fait en sorte de pouvoir écouter à ma guise facilement. C'est-à-dire que la page de la web radio était tout le temps ouverte dans mes fenêtres d'Internet.
Des onglets. Donc,
dans mes onglets, ouais, exactement. Ouais.
Magali le dit elle-même, hein, les premiers jours sont assez chiants, je la cite. Mais comme elle sait que bientôt, quand elle aura accouché, elle ne pourra plus se rendre au palais de justice pendant un bout de temps, eh ben, elle décide d'y aller. Le jeudi 10 septembre, elle se souvient de la date. Ce jour-là, elle doit y rejoindre son avocate.
Donc on avait rendez-vous, je crois, à midi, sur la place Dauphine, là, devant l'entrée. Je suis en chemin pour amener ma fille à l'école. Et donc, je suis à 3 semaines d'accoucher. Et là, j'ai une douleur qui me prend dans le ventre. Et donc, j'ai réussi, avec beaucoup de peine, à l'amener à l'école et à revenir chez moi, où mon mari était encore là, à la maison. Et je me tordais de douleur, à tel point que j'ai cru que je faisais une fausse couche, en fait. Ça m'a dévastée. Et donc, nous sommes allés aux urgences de la maternité. Ils ont fait tous les examens qu'ils pouvaient sur moi, sur le bébé. Et en fait, tout allait bien. Je sais pas, peut-être que c'est elle, à l'intérieur, qui m'a dit « Non, t'iras pas aujourd'hui. » Je sais pas ce qui s'est passé.
Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, elle a quand même son interprétation. Et donc, elle n'ira pas au palais de justice avant un bon moment. Commence alors des semaines, des mois d'écoute.
J'écoutais beaucoup, mais c'était pas mon rendez-vous quotidien.
Ah oui, t'as pas mis une sorte de petit protocole en place pour être prête à midi et demi, avec, je sais pas, en ayant mangé, ou au contraire?
Non, pas forcément. Non, parfois, je prenais en route et ça me dérangeait pas. En revanche, ce que je faisais, effectivement, c'est que je rentrais chez moi et paf, j'allumais.
C'est qu'en fait, à chaque fois que tu pouvais écouter, t'écoutais.
Ouais, c'est ça.
Ce que dit Magali, là, ça raconte la facilité avec laquelle elle allumait et éteignait la web radio. La simplicité de ce geste, elle contraste avec ce qui a été beaucoup raconté sur les procédures qu'il fallait suivre pour entrer physiquement dans le palais de justice. Les contrôles de police, la vérification des badges, l'obligation de boire un peu d'une bouteille qu'on faisait entrer dans la salle d'audience pour bien montrer que ça n'était pas un liquide dangereux. Bah, tout ça, ça prenait du temps. Rien à voir avec l'activation d'un player sur un écran. Quelque chose se joue évidemment dans ce contraste. Alors Magali, elle a accouché peu après le début du procès, elle a donc passé, après la naissance, beaucoup de temps chez elle à s'occuper de sa deuxième fille.
Mon bébé, à ce moment-là, a entendu pas mal, malgré elle, la web radio, parce que j'écoutais avec elle. Et au bout d'un moment, je me suis dit que c'était quand même très bizarre. Je pouvais pas lui imposer ça.
Et du coup, t'as fait comment ?
Bah, je faisais des pauses, j'écoutais quand elle dormait.
En sortant du studio, Magali m'a dit « Oh là là, c'est horrible, on va croire que je suis une mauvaise mère ». Je pense pas qu'on croit ça. Enfin, en tout cas, pas moi. Mais bon, ça pose une question passionnante, qui est celle de la transmission du trauma, transmission volontaire ou involontaire. Je sais qu'elle est essentielle, notamment pour celle des victimes qui ont des enfants. Je sais pas si la web radio a changé quelque chose à ça. Enfin, je continue à interroger Magali sur la manière très concrète dont elle écoutait la radio.
J'étais pas forcément focus sur ce que j'étais en train d'écouter. C'était un peu comme la radio à la maison et qu'on continue à faire sa vie.
Qu'est-ce qui t'accrochait l'oreille ? Parce que ça, j'imagine que du coup, il y avait des sortes d'allers-retours.
C'est sûr que je décrochais à des moments, évidemment. Quand c'est très technique, très long. Qu'est-ce qui m'a accroché ? Les témoignages des parties civiles. Je crois que je voulais pas rater tout ce qui allait se raconter sur la belle équipe, même si, évidemment, je me sentais concernée par l'intégralité du procès. Donc, j'ai écouté quand il y a eu les enquêteurs, quand ils ont expliqué le cheminement, les faits, enfin, tout ça. Plein de choses que je savais déjà, en plus, mais...
Les témoignages des rescapés, ils ont été très importants dans ce procès. Jean-Louis Périès, son président, a décidé de les faire entendre en longueur, au début du procès, à partir de la fin septembre, et il y a même eu une sorte de session de rattrapage à la fin du procès pour celles et ceux dont le besoin était apparu au cours de son déroulement. Et puis, les témoignages des forces de l'ordre, des pompiers arrivés sur place, etc. Même si, comme le dit Magali, elle en savait beaucoup, je me demande comment elle a vécu d'entendre ça dans son salon, entre deux réveils de sa fille.
Bah, c'est sûr que tout ce qui concernait les blessures, les policiers, les enquêteurs qui ont été très traumatisés de ce qu'ils ont vu sont rentrés pas mal dans les détails. Ça, c'était dur. Bon, même si j'ai vu aussi. Mais ça ressasse beaucoup de choses, en fait, surtout. Mais j'ai pas toujours écouté toute seule. Comme j'étais à la maison et que c'était souvent sur l'ordi, j'ai écouté avec mon mari. Enfin, en tout cas, parfois, il était là. Et je ne coupais pas parce qu'il était là. Et il m'a jamais demandé de couper ou de mettre des écouteurs.
Et il écoutait aussi ou c'était juste là?
Bon, un peu des deux, je crois. On a écouté ensemble l'audition de François Hollande. Et ça faisait que couper. Alors ça, c'est vrai que je me suis fait la réflexion que probablement, il y avait beaucoup plus de personnes sur la web radio ce jour-là que d'habitude, parce que ça coupait, coupait, coupait en permanence.
C'est drôle, ça.
Ouais.
Faudrait que je demande, tiens, s'ils ont remarqué ça. Ouais, parce qu'en effet, ce serait assez drôle qu'il y ait eu une telle affluence d'écoute pour la déposition de François Hollande. En même temps, au palais de justice, il y avait du monde ce jour-là. L'écrivain Emmanuel Carrère a suivi et chroniqué le procès pour le Nouvel Obs, le journal où je travaille, et ensuite il a regroupé ses chroniques dans un livre qui s'appelle V13. Et je relis le compte-rendu qu'il a fait de la déposition de l'ancien président au tribunal. Il parle, Carrère, d'une grande effervescence au palais de justice ce jour-là. D'ailleurs, étrange coïncidence, je remarque que c'était le 10 septembre, le jour où Magali voulait s'y rendre avant d'avoir eu très mal au ventre. Carrère rappelle les discussions qui avaient eu lieu sur la nécessité ou pas d'entendre François Hollande. Et voici ce qu'il écrit de sa déposition, je cite Carrère. Hollande a été digne, articulé, un peu compassé, mais l'humour jamais loin, Hollande. Les avocats des parties civiles lui ont posé des questions respectueuses et pour la plupart inutiles, auxquelles il a répondu en substance que si c'était à refaire, il ferait tout pareil. Voilà ce que Magali a entendu avec son mari. Et à part avec lui, son mari, je demande à Magali s'il lui est arrivé d'écouter avec d'autres gens. Elle me répond que non, à une exception près.
Un jour, je suis en Normandie, donc je suis chez mes beaux-parents. Ils ont des amis qui leur avaient donné un énorme sac de noix. On décide de faire une tarte. Tout le monde est en balade. Et je me mets à la table, à la grande table du salon, pour décortiquer les noix. Il doit être 14h, 15h, je me dis « génial, je suis toute seule, je vais pouvoir... » Et je mets la web radio. Et donc voilà, je m'active à la tâche. Et mon beau-père arrive, et il se pose en face de moi, et il m'aide. Il m'aide avec ses noix, là. Et donc on s'est retrouvés tous les deux à écouter la web radio, sans se parler forcément. Enfin moi, de toute façon, j'étais un peu... envoûtée, enfin pas envoûtée, mais en tout cas j'étais très absorbée par ce qu'il se disait. Et lui aussi, il est resté. Je l'ai vu par moments avoir des réactions.
Est-ce que ça t'a fait prendre conscience d'un truc, de voir sur le visage de quelqu'un d'autre ce type de réaction?
Ouais, ça fait prendre conscience que c'est pas rien quand même. Et puis, ça fait se sentir un peu moins seul de voir que bah, ça crée une émotion.
Magali, elle parle souvent de cette difficulté à partager, non seulement ce qu'elle a vécu, mais ce que c'est encore pour elle aujourd'hui. Alors, elle comprend très bien que les autres, parce que c'est moins présent pour eux, ou par pudeur, ne lui en parlent pas tous les quatre matins. Mais enfin, quand même, elle raconte souvent cet écart, même avec des gens qui sont très très proches d'elle. Et ça rend d'autant plus belle cette histoire avec son beau-père. Cette situation-là créée par la web radio, le surgissement de son histoire dans un moment du quotidien, les réactions, comme elle dit, sur le visage de quelqu'un qui n'a rien vécu de ça et qui sans doute n'aurait rien entendu du procès s'il n'avait fait irruption dans sa maison. C'est beau, hein, cette nécessité de voir sur le visage d'un autre que ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose, comme elle dit. Mais du coup, je me demande si elle se souvient d'avoir parfois craqué pendant l'écoute.
Ouais, ça m'est arrivé de pleurer quand, au deuxième ou troisième interrogatoire de Salah Abdeslam, tout d'un coup, il a décidé qu'il parlerait pas. Alors que, donc pendant 6 ans, il a pas parlé. Enfin, c'était la grosse interrogation. Et finalement, il a parlé au tout début. Et puis là, tout d'un coup, il remet sur la table son droit au silence. Ça m'a un peu dévastée. pour plein de raisons, ça, en fait, ça a remué plein de choses. Et ouais, je sais que ce jour-là, ça m'a fait pleurer. Après, tout ce qui est rentré dans le dur de l'enquête, je vais pas dire que je savais, il y a plein de choses que je ne savais pas, mais j'ai pas eu l'impression que ce soit la grosse surprise ou d'apprendre des choses. Enfin, tout ce qui était horrible, en fait, j'en avais connaissance, même un peu trop. Donc, c'est plutôt ce qui me surprenait, qui me déstabilisait, et c'est pour ça que ça m'a fait pleurer ce jour-là.
Est-ce que ça t'est arrivé de couper parce que c'était pas supportable ?
Non, je n'ai vraiment pas le souvenir de me dire oh là là, c'est trop, là, j'en ai assez entendu, j'arrête. J'ai toujours arrêté parce que je devais partir de chez moi ou pour une raison extérieure.
Parce que tu étais reprise par la vie, en fait.
Bah oui, ouais, c'est ça.
C'est donc le silence de Salah Abdeslam qui a fait craquer Magali. Un silence, donc, plutôt que des choses dites. Comme elle le raconte, Magali, la parole de Salah Abdeslam, c'était un enjeu gigantesque du procès. Bon, d'abord parce que c'était le seul membre du commando encore en vie, ensuite parce qu'on voulait savoir pourquoi, finalement, il ne s'était pas fait exploser et avait abandonné sa ceinture dans une poubelle. Et puis l'enquête aussi avait montré que sa participation à l'organisation avait été très active, de longue date. C'était lui qui était accusé d'avoir transporté une bonne partie des membres du commando depuis les frontières de l'Europe jusqu'en Belgique. Alors pour comprendre l'effondrement de Magali, eh ben il faut se souvenir de la variation des attitudes de Salah Abdeslam. D'abord, il parle. Et même pendant son second interrogatoire qui porte sur les semaines précédant l'attentat, Carrère écrit « Non seulement il parle, mais il a l'air content de parler. Content d'être écouté et d'attirer du monde. » Puis arrive le jour où Abdeslam doit être interrogé sur les dernières heures avant l'attentat. Et là, plein de questions se posent. Est-ce qu'on lui a donné une ceinture au dernier moment, après une défection ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas activé ? Alors voilà comment Emmanuel Carrère décrit le moment. Énorme attente. Et coup de théâtre. Aujourd'hui, il usera de son droit au silence. C'est comme ça, il n'a pas à s'en expliquer. Le président effondré insiste, en vain. Tout le monde insiste, en vain. Bon, en fait, Abdeslam parlera un peu à la fin de l'audience, mais pas du tout à la hauteur de ce qu'on attendait. En écoutant Magali, je me dis que, malgré des moments comme ça qui sont durs, c'est peut-être sa chance ou sa force, ce quelque chose qui l'entraîne vers la vie et qui conditionne jusqu'à la manière dont elle écoute la web radio. Pas de protocole, elle a expliqué. Elle allume quand elle peut et elle éteint quand elle a autre chose à faire. D'ailleurs, selon ses dires, personne autour d'elle ne s'est inquiété de son écoute. Personne ne lui a dit « il faut que tu décroches maintenant ». Mais est-ce que c'est si vrai que ça ? Est-ce qu'elle décrochait aussi facilement de la web radio ? La réponse, elle vient quand je lui demande si ça lui est arrivé de l'écouter dans la rue, par exemple.
Oui, j'ai écouté dans la rue, j'ai écouté dans le métro, parce que j'avais également mis mes codes sur mon téléphone, et je me souviens même très bien ce que j'ai écouté un jour dans la rue. L'interrogatoire du père de Sami Amimour, qui est un des kamikazes du Bataclan. Il savait que son fils était parti en Syrie, mais d'ailleurs, il y est allé. Bon, il est revenu tout seul. Je me souviens, il racontait qu'il ne savait pas du tout que son fils était là ce soir-là. Je marchais dans la rue et je l'écoutais. C'était hyper triste. Et du coup, je suis allée au bout de son interrogatoire.
Et tu te souviens où tu marchais ?
Ouais, enfin, je suis quasiment sûre que j'étais avenue de la République et j'allais à un rendez-vous. Et je crois même que j'étais avec ma poussette.
Ce témoignage aussi a marqué le procès. Carrère lui consacre de longues pages à cet homme, Azdine Amimour, qui, quand dans la soirée du 13 novembre il a appris pour les attentats, n'a pas pensé une seconde que son fils pouvait y être mêlé pour la raison paradoxale qu'il était parti faire le djihad en Syrie, écrit Carrère. Mais je relève autre chose dans le compte-rendu que l'écrivain a fait de l'audience. Carrère écrit « Vêtu d'une vieille veste de treillis, c'est un homme de 74 ans, fatigué, évasif, mais aussi cool et décontracté. Ainsi se décrit-il lui-même, et cela n'a pas fait bonne impression, ni qu'ayant accepté la chaise qu'on lui proposait, il prenne ses aises dessus comme s'il était au bistrot. » C'est drôle ça, parce que en lisant ces lignes d'Emmanuel Carrère, je me demande si Magali aurait été aussi émue si elle avait vu tout ça à l'audience. Peut-être qu'elle aurait ressenti les choses très différemment. Bon, de toute façon, c'est impossible de savoir. Donc Magali, elle entend ça dans la rue. Tout est étrange là-dedans. marchait dans la rue en poussant son bébé nouveau-né, ému par le témoignage du père d'un kamikaze, tout ça à quelques centaines de mètres du lieu où cet homme a tué et est mort, et à quelques centaines de mètres aussi du lieu où elle, Magali, s'est fait tirer dessus et a vu mourir ses amis. En fait, j'ai du mal à mesurer ce que ça peut produire tout ça. Alors, pour mieux le saisir, je lui demande à Magali s'il y a eu d'autres circonstances aussi bizarres. Est-ce qu'elle a écouté au boulot, par exemple ? Parce que Magali, après son congé maternité, elle a repris le travail, alors que le procès, lui, suivait son cours.
Je suis maquilleuse dans le cinéma, et je suis partie en février-mars pour un film. Et j'ai écouté sur mon téléphone, avec mes écouteurs, et j'ai écouté donc là, sur le tournage... Dans un décor magnifique, hein, j'étais en Corse, mais voilà, j'écoutais l'audience.
Les autres le savaient ?
Ouais, certaines personnes le savaient, ouais.
Et s'ils trouvaient pas ça bizarre ?
En tout cas, ils me l'ont pas dit.
Pendant des semaines donc, voire des mois, Magali a écouté sans avoir d'image mentale, ni de la salle, ni des acteurs du procès, que ce soit des magistrats, des avocats, et bien sûr des accusés. Je lui demande ce que ça produisait.
Les accusés, je connaissais leur visage parce qu'ils ont été pas mal médiatisés. Après, à part trois, je ne savais pas trop qui était qui quand ils parlaient.
Est-ce que leurs voix t'ont surprise ?
Un peu, ouais. Des voix plutôt jeunes, ça les a humanisés encore plus.
Il est beau ce « encore plus ». Mais c'est quoi son sens exact ? Encore plus que ce qu'elle sait déjà d'eux ? Encore plus que leurs photos ? Je sais pas. Une chose intéressante, Magali ne savait pas qui parlait. Ce qui signifie que le nom de la personne qui prenait la parole n'était pas forcément écrit sur le player de la web radio. Pourquoi a été fait le choix de ne pas afficher le nom de la personne ? Donc, Magali écoute des voix, mais aussi des sons. Parce que des sons ont été diffusés au procès, et notamment un très long extrait d'un enregistrement qui a été fait au Bataclan. Cet enregistrement, il provient de l'appareil d'un spectateur, qui n'a pas éteint évidemment, et qui a donc capté 2h30 de ce qui s'est passé dans la salle après l'arrivée des terroristes. Je sais que cet enregistrement a été diffusé dans la salle d'audience, mais pas dans la web radio. C'est la seule fois où le président Jean-Louis Périès a fait ce choix, couper la web radio. Alors, je suis curieux de savoir si Magali comprend cette décision.
Les bruits, c'est peut-être le pire. Tournage de films d'action où ça tire dans tous les sens, c'est sûr que c'est ça le plus dur finalement, mais même un feu d'artifice, un pétard, une porte qui claque hyper fort au loin qui résonne, tout ça, ça ravive. C'est physiologique en fait. Ça remet dedans direct. Mais pour répondre à ta question, si je trouve ça normal de ne pas avoir diffusé sur la web radio. Je crois que non, je trouve pas ça normal, parce qu'ils ont laissé la possibilité aux gens qui étaient présents à l'audience de rester ou de sortir. Au même titre, quand on est sur la web radio, on peut couper ou écouter. Donc en fait, ils ont pris la décision à la place de tout le monde. C'est dommage.
On peut imaginer les raisons pour lesquelles cette décision de non-diffusion a été prise. Préserver les parties civiles qui écoutent. Précisément à cause de ce que Magali dit sur la force du son. C'est un truc raconté par beaucoup de victimes de ces attentats, cette question du son dans le traumatisme. Si l'enregistrement du Bataclan n'a pas été diffusé dans sa longueur dans la web radio, je sais que de courts extraits l'ont été, eux. Et Magali les a entendus. Je me demande si, eu égard à cette force du son, ça n'était pas prendre un risque de les entendre toutes seules, ces extraits et d'autres choses encore, toutes seules dans son appartement ou dans son casque.
Alors oui, c'est sûr, mais après, c'est une question de tempérament.
Toi, tu préférais ça ? Tu préférais être seule face au...
C'est pas que je préférais être seule, mais c'est que j'ai mis du temps à me décider et à me sentir prête à y aller physiquement.
Donc, pendant des mois, Magali n'a vécu le procès que par le son de la web radio. Mais elle a fini par se rendre au palais de justice.
Et donc, j'ai choisi un jour en particulier où un enquêteur de la belle équipe venait raconter une grosse partie de leur travail. Et après, c'était l'interrogatoire de la témoin protégée qui a donné l'adresse de la planque, de la dernière planque. Et ça m'a bien chamboulée.
Deux moments importants. D'abord, la déposition de celle qu'on appelle une témoin providentielle. C'est la femme qui, le 16 novembre, a appelé de son propre chef le numéro d'alerte attentat pour dire qu'elle avait vu, la veille, Abdelhamid Abaoud, qu'on croyait mort en Syrie jusque-là, et qu'il était caché sous un pont, à Aubervilliers, à deux pas de Paris. Bon, on comprend que cette audience soit un moment important du procès, tant le rôle qu'a joué cette femme est majeur, et les conséquences sur sa vie désastreuses d'ailleurs. Je relis l'article de ma copine Violette Lazare qui a fait le compte-rendu de cette audience dans le Nouvel Obs. Je cite. « La voix qui sort des haut-parleurs ressemble à celle d'un homme. Elle a été brouillée par un logiciel. Sur l'écran, une double silhouette apparaît, étrange théâtre d'ombre. Depuis novembre 2015, Sonia, comme la presse a l'habitude de la nommer pour cacher sa véritable identité, a changé de nom, de vie, de lieu de résidence. En langage juridique, elle est un témoin protégé pour avoir permis aux autorités de neutraliser Abdelhamid Abaoud, l'un des terroristes du 13 novembre et le cerveau des attaques qui s'apprêtait à repasser à l'acte avec un autre membre du commando. L'autre déposition de ce jour, c'est un enquêteur de la Belle Équipe. On comprend pourquoi Magali a choisi ce jour. On comprend aussi pourquoi ça a dû la chambouler. Ce que Magali a vécu sur cette terrasse, et même si elle s'en est sortie vivante, c'est indescriptible évidemment. Alors, l'entendre évoqué par un enquêteur. Mais justement, quelle différence entre l'entendre évoqué à la web radio et être présente dans la salle d'audience? Est-ce que ça a changé quelque chose de voir la salle d'audience et les accusés?
Je visualisais vaguement, parce qu'on savait comment était faite la salle d'audience, mais en y allant, physiquement, ça a été très différent. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à les voir d'aussi près. Les premiers rangs, on va dire les 10 premiers rangs, sont assez proches des avocats, des accusés et de la cour, au fond. Ça m'a fait très bizarre, parce qu'en plus, je les trouvais hyper cool. Ils papotaient entre eux, ils rigolaient. C'était hyper énervant, en fait. C'est très bizarre, mais ça m'a beaucoup troublée. J'étais pas très bien. Ouais. C'est un grand pas pour moi parce que on était au mois d'avril. J'avais eu le temps de bien m'imprégner du truc chez moi ou dans la rue ou quoi. Mais là, c'était encore autre chose. Mais ça m'a fait pareil avec les gens de la cour, avec le président, les assesseurs, que j'avais l'impression de connaître entre gros guillemets parce que je les entendais quasiment tous les jours. Donc je connaissais leur voix, et là j'ai mis des visages. Enfin, ils étaient tous masqués, mais je les ai vus, quoi.
Et alors, ça change quoi?
Eh ben c'est pareil, je ne m'attendais pas trop à ça. Enfin, on se fait une image des gens qu'on entend, et j'y suis pas allée beaucoup physiquement. J'y suis allée une dizaine de fois, mais j'ai continué à écouter. Et donc, une fois que j'y étais allée, quand j'écoutais chez moi, eh ben là, j'avais beaucoup plus la vision du lieu. Et ça a fait une grosse différence. Je mettais des images sur quelque chose qui était complètement fantasmé depuis des mois. Ça a concrétisé quelque chose, ouais.
Intéressant cette idée de la concrétisation par la présence physique, que Magali oppose au fantasme qu'elle avait construit par l'écoute. Mais est-ce qu'elle peut dire qu'y aller est une bonne chose pour elle? Qu'il fallait mieux ça qu'en rester à ce qu'elle appelle une expérience fantasmée?
Ça m'a fait du bien d'y aller, oui. Et ça a un peu changé ma vie, d'ailleurs.
Bon, Magali a retrouvé au palais de justice quelqu'un qui est devenu important pour elle. Elle a vécu en commun quelques moments clés du procès, notamment le verdict, où elle s'est rendue, même si elle n'a pas très bien vécu la fête qui l'a suivie. C'était aux Deux Palais, la brasserie qui fait face au palais de justice, et s'y sont côtoyés les parties civiles, leurs avocats, les avocats de la défense, et même trois accusés qui comparaissaient libres et que le verdict avait condamné à l'interdiction de séjour en France pour 10 ans. Mais ils étaient là, ce soir-là, quand même. Alors Magali, elle est partie vite. Et après, le soir, le lendemain, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle a fermé l'onglet qui était tout le temps ouvert dans son navigateur?
Non, quand ça s'est arrêté, je l'ai laissé ouvert. Je me souviens que quand j'ouvrais mon ordinateur, je le voyais là en premier. J'ai essayé d'écouter, évidemment, il n'y avait plus du tout de lien, plus du tout de... Enfin, il n'y avait rien au bout, quoi. J'ai mis du temps à fermer l'onglet. C'était dire au revoir, tourner une nouvelle page. Mais j'ai réussi quand même. Je l'ai fait.
Tourner une page en fermant un onglet. J'aurais jamais pensé qu'un geste numérique aussi trivial que la fermeture d'un onglet pouvait être chargé d'autant de sens. Un sens aussi existentiel. Mais je l'ai fait, a dit Magali. Je le trouve très beau, ce « mais je l'ai fait ». J'ai une dernière question. Une question un peu compliquée à poser. Magali avait décidé de ne pas témoigner au procès. Elle y est allée une dizaine de fois, c'est assez peu comparé aux 10 mois qu'il a duré. Elle a beaucoup écouté la web radio, certes, mais sans non plus accorder son rythme de vie au procès. D'où ma question toute simple. Pourquoi elle a autant écouté ?
J'ai écouté pour pas passer à côté de cet événement qui n'arriverait pas deux fois. Donc, c'est bizarre parce que je n'y allais pas physiquement, mais j'avais quand même envie d'y participer d'une manière ou d'une autre. Et je suis très heureuse qu'il y ait eu cet accès. Parce que j'imagine qu'il y en a qui ont écouté même très ponctuellement, une fois, deux fois, et puis qui se sont dit en fait non. Mais ça existait. Et de savoir que ça existe, finalement, parfois ça suffit.
C'est intéressant cette idée. La web radio ouvre une possibilité. Une possibilité qui permet d'atténuer la radicalité du choix entre la présence dans la salle d'audience et l'absence. Une possibilité dont, au dire de Magali, il suffit qu'elle existe même si on ne l'exploite pas. Bon, Magali a répondu à pas mal des questions que je me posais au sujet de la web radio. Mais il en reste plein d'autres. Parce que là, je ne sais absolument rien de son histoire. Alors, j'en ai discuté avec ma copine et collègue du Nouvel Obs, Violette Lazare, dont j'ai cité un papier tout à l'heure. Quand j'ai parlé de Magali et de la web radio à Violette, elle m'a tout de suite dit
« Là-dessus, il faut absolument que tu vois Arthur des Nouveaux.
Il est hyper important dans cette histoire. »
Le code a changé.
Arthur des Nouveaux était au Bataclan le soir du 13 novembre. Il a pu s'échapper. C'est même lui qui a mis les membres de Eagles of Death Metal, le groupe qui jouait ce jour-là, dans un taxi en leur filant 50 euros. Après, il a participé à la création de Life for Paris, de l'association des victimes des attentats, dont il est devenu le président. Il est énergique, Arthur des Nouveaux, et il parle bien. Alors on l'a beaucoup vu et entendu dans les médias. Et puis, Violette a raison, il est parfois mentionné comme ayant eu l'idée de cette web radio. Alors, on prend rendez-vous un soir à son boulot. Je le vois pour qu'il me raconte son rôle dans cette histoire. Sauf que voilà, moi j'ai en tête ce que Magali m'a dit et j'ai envie de savoir si lui, il l'a écouté cette web radio. Parce que bon, j'imagine qu'en tant que président d'une association de victimes, il avait comme impératif d'être présent au palais de justice.
J'ai essayé d'être présent au maximum au procès sous une double contrainte qui était ma vie perso et ma vie pro doivent exister en parallèle de ce procès. Quoi. J'arrive pas à ce procès en ayant fait des années pour me reconstruire, pour perdre mon boulot et ou perdre ma famille. Et donc notamment, moi j'ai eu un gosse la première semaine du procès. J'ai cru d'ailleurs qu'il allait naître la nuit du premier jour. C'est arrivé une semaine après, donc forcément, j'ai pris un congé paternité après. Donc là, j'ai suivi les débats en web radio. Et puis, j'avais un boulot assez prenant. J'arrivais en général à m'organiser pour mettre un maximum de réunions le matin et donc pouvoir aller aux audiences l'après-midi, puis rebosser le soir. Et donc moi, je me souviens d'avoir suivi les audiences par web radio, beaucoup dans le RER ou le métro. Aussi étrange que ça puisse paraître, d'écouter ces horreurs-là, enfin, un truc aussi intense émotionnellement. Je me souviens aussi d'avoir écouté Abdeslam qui témoignait dans un TGV avec la connexion du Ouigo. J'avais un rendez-vous professionnel à Bordeaux. Et donc, mon TGV était l'après-midi et c'est un des jours où Abdeslam livre tout un tas de choses.
Où revient donc la figure de Salah Abdeslam ? Comme quoi, malgré la diversité des lieux d'attentat, entre Arthur qui était au Bataclan et Magali qui était à la Belle Équipe, il est possible que les moments forts du procès soient un peu les mêmes pour tout le monde. Et elle est étonnante aussi, cette coïncidence de situation entre Arthur et Magali. Leurs enfants qui naissent au tout début du procès, à quelques jours d'intervalle. La web radio écoutée pendant les congés de maternité et paternité. Comme un entrechoquement maximal entre le drame de l'attentat et ses morts, et la vie qui apparaît. Et donc, cette possibilité donnée par la web radio de rendre moins définitive l'alternative entre aller aux audiences ou ne pas y aller et se contenter donc des comptes rendus journalistiques. Avec comme conséquence le fait d'écouter tout ça dans des lieux incongrus et parfois publics.
Autant le métro, c'est un peu spécial puisque vous êtes bousculé ainsi de suite, autant dans le TGV, vous pouvez être dans votre bulle. Et en fait, vous avez le recul de justement pas vous prendre trop d'informations. Vous avez juste la voix. Et donc moi, je garde des souvenirs assez forts des moments en web radio parce qu'il n'y a aucune distraction possible. Il y a un côté immersif, hyper fort. Et je pense que c'était bien de commencer par la web radio avec les premières journées qui n'étaient pas forcément les plus importantes. Je pense que moi, la première fois où je l'écoute, c'est en fait le premier jour. Parce que le premier jour, c'est une lecture d'actes pas très intéressante. Et donc, c'était plus pour vérifier que la web radio marchait. Celui qui se connecte à la web radio la première fois pendant un témoignage d'une victime, je pense que le choc est un peu impossible à gérer, quoi.
Intéressant qu'Arthur relève la puissance d'immersion du son seul et de son effet sur le moment les plus durs du procès. Et la voix des accusés, dont Magali a dit que leur jeunesse les humanisait encore plus. Il en a pensé quoi, Arthur, quand il les a entendues, ces voix ?
J'imagine qu'il y a une grosse différence entre ceux qui ont fait la web radio comme moi en complément d'y aller et ceux qui n'y sont pas allés du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même entendu la voix des terroristes en étant dans la salle pour la première fois. Et donc, j'avais un visage, j'avais un physique. J'imagine le côté désincarné et la surprise, quelque part, de voir forcément une voix plutôt douce, plutôt jeune, chez tous ces types qu'on a quand même tendance, quand on est victime, à voir, qu'on le veuille ou non, comme le mal incarné, le monstre, et ainsi de suite. Moi, de toute façon, j'avais dû faire ce saut-là en les voyant, et en voyant qu'on respirait le même air, qui ressemblait à des types que je pouvais croiser dans les transports en commun ou dans la rue tous les jours. Donc, quelqu'un qui aurait suivi le procès uniquement par les sons, bah oui, forcément, on retrouve ce vertige qui est, je vais pas refaire Hannah Arendt et la banalité du mal, mais il y a un côté banalité de la voix du mal, très clairement, qui fait qu'on peut se retrouver un peu pris par surprise.
C'est drôle parce que Magali a employé le même mot de surprise pour désigner les moments qui l'avaient le plus bouleversé en écoutant la web radio. Les choses qui la bouleversaient donc, c'était pas forcément les choses les plus horribles auxquelles elle s'attendait finalement, que celles qui la surprenaient. Autre chose qu'a dite Magali, à l'exception de trois d'entre eux, elle ne reconnaissait pas la voix des différents accusés. Est-ce que ça a été aussi le cas d'Arthur ?
Et il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand on se connecte, il n'y a pas de jingle, quoi. C'est pas une appli qui est faite pour être user-friendly, c'est vous êtes plongé dans le grand bain avec 30 minutes de décalage, mais dans le grand bain immédiatement. Vous ne savez pas vraiment qui parle. Sachant qu'il y a quand même autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a la salle d'audience, il y a la web radio, et puis entre les deux, il y a le live tweet. Et donc le live tweet, c'est quand même la possibilité de le suivre aussi en direct sur Twitter, avec là un espèce de résumé en live des propos tenus avec les noms des locuteurs, mais 30 minutes de décalage. Donc des fois, il y avait quelque chose d'un peu compliqué, mais c'était pas mal parce que si on voyait qu'il y avait un tweet ou une séquence qui nous intéressait particulièrement et qu'on voulait l'entendre, on avait 30 minutes pour réussir à se débrouiller et se connecter à la web radio. Moi, j'ai beaucoup fait ça.
Si Arthur insiste sur les 30 minutes de décalage, c'est parce que la web radio, donc, n'était pas en direct intégral. Les organisateurs s'étaient laissé une marge. Bon, j'imagine pour pas être surpris par un événement d'audience, mais il faudra quand même éclaircir ce truc. En attendant, je détricote l'interpénétration des moyens de communication assez complexes que décrit Arthur. Je résume. Si on n'est pas présent au tribunal, on peut suivre le live tweet de l'audience sur des comptes de journalistes, et là, si on est intéressé par ce qui est dit, on peut profiter de la demi-heure de décalage de la web radio pour s'y brancher et écouter le moment. C'est toujours frappant, hein, cette manière qu'on a aujourd'hui de jongler entre les différents médias et plateformes selon les contraintes techniques, selon le confort ou selon nos attentes. À ce propos, je me pose une question. Pourquoi avoir besoin d'écouter un passage dont on a déjà lu la retranscription sur Twitter ou ailleurs ? Pourquoi vouloir entendre ce qu'on a lu ? Entendre ce qu'on sait déjà ? J'ai pas posé la question à Arthur, mais j'aurais dû. Alors, j'ai des hypothèses, évidemment. Le besoin de certifier, de compléter aussi. Mais peut-être quelque chose de plus profond. Entendre par soi-même. Être présent, d'une certaine manière. Alors, ces 30 minutes de décalage entre l'audience et sa diffusion par la web radio ont donc ouvert une possibilité dont Arthur dit avoir souvent usé. Imaginons, hein. Il est au boulot, il suit d'un œil les live tweets des audiences, il voit passer un moment qui l'intéresse et qui sera donc diffusé quelques minutes plus tard. Il a envie de l'écouter. Bah, qu'est-ce qu'il fait là ? Il s'isole pour être tranquille ?
Bah, on n'est pas tant que ça forcé de s'isoler. Il faut réussir à mettre ses écouteurs et on peut être dans une foule. On ne peut pas être en réunion quand on fait ça. Ça, c'est très clair. En fait, moi, je l'ai écouté sur mon téléphone. Je n'ai jamais écouté la web radio sur mon ordinateur. Et donc, moi, c'était vraiment comme me connecter à une appli de streaming n'importe quand. Je dirais qu'une fois, j'ai essayé de le mettre sur la chaîne chez moi. Là, c'était un peu étrange. entendre les voix du procès, vraiment comme si quelqu'un était dans la pièce avec vous, là, c'était une autre expérience que j'ai trouvée extrêmement désagréable. Ça, je l'ai tenté une fois et je ne l'ai pas fait deux.
Comme une appli de streaming. Ouais. Enfin, ok. Sauf que c'est pas du tout une appli de streaming. Déjà, ça n'en avait pas la tête. Hein. Arthur m'a montré une capture d'écran et j'ai été frappé par la sobriété et par la couleur. Celle d'un pan de bois clair. J'imagine que c'était pensé. Bon, ça, c'est une autre question pour plus tard. Et je remarque une chose. Arthur écoutait seul, au casque, alors que Magali écoutait plus souvent sur son ordinateur, donc parfois avec son mari. Est-ce qu'il est arrivé à Arthur aussi d'écouter avec d'autres gens ?
Non, mais je sais qu'il y a quelques parties civiles qui se sont fait des séances d'écoute où il y avait plusieurs personnes dans la salle. Ça, c'était légal, a priori. De toute façon, on était dans une zone assez grise là-dessus. Il était clair qu'il ne fallait pas enregistrer. Il n'était pas clair de si on le diffusait, quelqu'un passait, est-ce qu'on rentrait dans l'illégalité ou pas. Et donc, c'est arrivé qu'il y ait des séances voilà, un peu de collectives. Moi, je n'ai pas participé à ça.
Là, j'interromps Arthur. Parce qu'il ouvre un champ important. Celui du cadre légal fixé pour l'écoute. Il dit... Il y avait une zone grise sur le fait de faire écouter à des gens non concernés. En revanche, enregistrer était interdit. Ok, mais c'était pas compliqué d'enregistrer en fait. Il suffisait de poser un enregistreur à côté de son ordi. Alors, personne ne l'a fait ?
Moi je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adhérents qui ont essayé de faire enregistrer leur témoignage. Parce que finalement, vous allez à la barre, vous déposez. Et ce moment-là, oui, il appartient à la justice, mais il vous appartient un peu à vous aussi. Et on sait que les enregistrements de la justice, c'est 50 ans avant qu'ils sortent. Et que c'est pas parce que c'est votre voix dessus que vous avez plus de droits sur le sujet, même pour un usage privé. Et donc c'est quand même un moment où vous allez vous mettre à nu, où vous allez raconter quelque chose qui peut d'ailleurs intéresser l'histoire familiale. Je veux dire, quand une partie civile va mourir et que sa famille va se dire « mais qu'est-ce qu'il a vécu ?» Cet enregistrement, il existe, mais il n'est pas accessible. Donc il y en a qui ont préféré en faire une copie.
Ça peut se comprendre. Attendre 50 ans pour avoir accès à l'enregistrement pour l'histoire, et encore sous certaines conditions, hein, bah j'imagine que ça fait long. Surtout pour une parole dont Arthur décrit de façon très convaincante l'importance. Mais bon, il devait y avoir de très bonnes raisons à cette interdiction. Alors, je laisse Arthur reprendre son raisonnement. Il parlait du fait qu'il y avait peut-être eu des écoutes collectives.
Ce qui est sûr, c'est qu'en revanche, nous, on est une association qui fonctionne beaucoup avec un groupe Facebook où les gens peuvent converser et qu'il y avait du commentaire en live de certaines audiences, que ce soit parole des accusés ou témoignage des parties civiles. J'allais dire les parties les plus émotionnelles, c'est une manière probablement de réussir à décharger l'émotion, mais aussi de vérifier qu'on comprend bien ce qu'on entend. Il y avait une discussion par jour, de toute façon. Et donc, les commentaires s'additionnaient. Et c'était beaucoup de web radio, parce que, en théorie, dans la salle d'audience, les parties civiles n'avaient pas le droit de sortir leur téléphone. Donc, pas de commentaires en live de la part des parties civiles depuis la salle d'audience. Il fallait que ce soit avec la web radio.
Là, je relève dans ce que dit Arthur une couche supplémentaire d'interpénétration des médias. En plus de ce qu'il a dit tout à l'heure, je découvre le commentaire de la web radio dans un groupe Facebook. Mais à part décharger l'émotion, ce qui est beaucoup déjà, hein, il servait à quoi ces commentaires ?
Être capable de se demander si tel ou tel accusé qui est en train de faire une confession, on le sent dans l'émotion ou plutôt dans le contrôle et dans le mensonge, ça peut paraître un peu étrange de dire ça, mais je pense que c'est ce que les parties civiles font quand elles sont dans la salle et c'est aussi ce qu'elles peuvent faire sur le web quand elles sont en train d'écouter la web radio.
Parce que moi je me disais, un des risques de la web radio, c'est que les gens se mettent à écouter tout seuls dans leur coin, justement sans la socialisation du procès physique, etc. Donc en fait, ce que vous m'expliquez, c'est qu'avec le groupe Facebook, il y avait la possibilité de socialiser une écoute individuelle.
Oui, mais c'est là aussi où il ne faut pas surestimer le rôle des associations. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie des parties civiles qui ne faisaient pas partie d'associations et qui donc l'ont probablement écouté seule chez elles. Et ça, c'est probablement une expérience qui était un peu différente.
Arthur a raison. J'étais déjà en train de m'émerveiller de cette ambivalence du numérique qui d'un côté isole, parce qu'on écoute seul la web radio, mais qui d'un autre côté réunit parce qu'on commente sur un groupe Facebook. Mais lui, il me ramène à la réalité. Il y avait sans doute des gens pour lesquels la web radio a vraiment été une expérience solitaire. Maintenant, il faut que je parle avec Arthur Desnouveaux du choix fait par le président Périès de ne pas diffuser à la web radio l'enregistrement sonore du Bataclan. Je sais que sa diffusion à l'audience a été un grand combat d'Arthur et de Life for Paris contre les premiers avis des magistrats qui considéraient qu'il ne fallait pas infliger ça aux parties civiles. L'association a défendu l'idée que, dans n'importe quel autre procès, ces sons auraient été diffusés, et que donc il fallait le faire, Et ils ont fini par obtenir gain de cause. Pour autant, le président a décidé qu'il n'y aurait pas de diffusion à la web radio. Alors, je soumets à Arthur ce que m'a dit Magali. À la fois que le trauma revenait beaucoup par le son, mais que pour autant, elle aurait préféré pouvoir écouter cet enregistrement à la radio.
Ce qu'il faut bien se représenter à l'intérieur du Bataclan, c'est quand même qu'une bonne majorité des gens qui sont restés les 2 heures dans le Bataclan, ils ont passé la tête écrasée contre le plancher ou contre le sol, sans rien voir et juste en entendant. Et donc c'est clair que les sons sont de toute façon le plus grand réactivateur, avec autre chose auquel on pense assez rarement, qui est l'odorat. Vous demandez à une victime du 13 novembre si elle apprécie les feux d'artifice, elle vous répondra non. Et si elle apprécie l'odeur de poudre qui va avec les feux d'artifice, là, c'est une unanimité pour dire non. Donc clairement, il y a quelque chose dans les sons qui est très difficile. Et il y a ce petit côté avec la web radio qui est le moustique attiré par la lampe. C'est-à-dire que quand vous savez qu'il y a web radio, que vous êtes victime et que vous savez qu'il va être diffusé pour une seule et unique fois les sons du Bataclan, même si vous savez que c'est dur, je ne sais pas si vous pouvez vous retenir. Et donc clairement, il y a quand même une notion de protéger les gens malgré eux. Parce que déjà le procès pouvait devenir addictif en web radio, mais surtout l'idée de réentendre et de se confronter, c'est un peu une forme d'obligation, mais très très mauvaise.
Je comprends pas le mécanisme psychique qui est à l'œuvre dans un moment comme ça.
Vous vivez un trauma, vous savez qu'il y a un enregistrement, j'allais dire, fiable, du moment où ce trauma est arrivé. Pour la petite histoire, ces sons-là étaient dans le dossier scellés. Donc en clair, votre avocat ne pouvait pas vous les faire entendre dans son cabinet. Donc, vous avez quelque part une occasion unique de vous confronter à vos souvenirs et à vos souvenirs traumatiques. La tentation est assez grande de se dire « je vais le faire, même si c'est risqué ».
Là, je comprends mieux. Je comprends mieux aussi pourquoi la décision a été prise par le président Périès de ne pas diffuser dans la web radio. Parce qu'il y a peut-être quelque chose auquel on ne peut pas résister, qui va donc au-delà de la liberté de chacun à décider ou pas de les entendre. Bon, ça c'est une question presque philosophique. Est-ce qu'il faut protéger les gens malgré eux? Je vais pas la trancher, hein. Mais je sais qu'elle s'est pas mal posée pendant le procès et que la web radio, elle a pas échappé non plus à ce problème. Mais bon, au final, Arthur, lui, il dresse quel bilan de la web radio?
Moi, je crois que la web radio, ça a vraiment été crucial dans la réussite du procès. Ça a permis aux parties civiles de se dire qu'elles allaient pouvoir suivre le procès avec un accès privilégié, qui est quand même l'accès que méritent des parties civiles qui sont parties au procès, sans pour autant avoir à se désociabiliser pour le suivre. Et donc, ça a quand même permis aux gens de rester en contact avec cet événement-là sans avoir à mettre entre parenthèses tout ce qu'elles avaient reconstruit. Et ça a vraiment permis que tout le monde s'approprie des moments d'audience sans filtre. Et il y a quand même un côté non éditorialisé à la web radio qui est impossible de retrouver, que ce soit dans les live tweets, dans les articles, dans les comptes rendus d'audience et ainsi de suite. Ça a permis à tout un chacun de se dire « je participe au moment de justice et j'y ai droit parce que j'étais victime ». Donc hyper important. Et c'est vrai que moi, quand je repense au procès, tout se mélange un peu entre les moments où j'étais là, les moments où j'ai lu des choses et les moments où je les ai écoutés à la web radio. Tout ça, c'est un gros amalgame. Je pense que si on enlève la web radio, je me sens plus à distance du procès.
Donc, Arthur en tire le même bilan que Magali. Et il donne à la web radio un rôle crucial, c'est lui qui emploie ce mot, hein, crucial, dans la réussite du procès. C'est pas rien, hein. Moi je m'attendais pas à ce que ce soit si important. Mais en fait, je comprends. D'une certaine manière, la web radio, elle matérialise le souci que ce procès a accordé aux parties civiles, en leur donnant la possibilité de participer sans être là. Au fond, c'est l'exploitation vertueuse d'une magnifique caractéristique du numérique, complexifier l'alternative entre présence et absence, permettre même un entre-deux entre présence et absence. Bon, évidemment, 2 personnes parmi les 1700 parties civiles, c'est loin d'être représentatif. Et d'ailleurs, quand je demande à Arthur s'il pense que son avis et celui de l'association est généralisable, il prend quelques précautions.
Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai une association où il y a beaucoup de survivants, à la fois des terrasses, du Stade de France, du Bataclan, qui sont des gens plutôt jeunes et technophiles. Eux, voilà, l'écouter sur des supports mobiles un peu n'importe où, ça n'a pas été difficile d'un point de vue technologique. Et donc, on s'y est tous mis à regarder les choses, à la fois sur le web, mais en se disant, moi, j'ai le son quand je veux.
Évidemment. J'avais pas pensé immédiatement, mais la fracture numérique, ou en tout cas l'aisance dans les usages numériques, l'habitude aussi, ça joue pour un événement comme celui-ci. Et la question se pose nécessairement si l'idée est de généraliser ce dispositif à d'autres procès qui durent longtemps et qui comptent un très grand nombre de parties civiles. Maintenant, il faut en venir à l'histoire à proprement parler de cette web radio. Je l'ai déjà dit, dans les quelques articles qui existent sur le sujet, Arthur est mentionné comme « en ayant eu l'idée ». Alors, est-ce qu'il confirme ? Et comment elle lui est venue, cette idée ?
L'intuition de départ, c'est que, évidemment, comme tout bon Français, on n'y connaît rien à la justice. Quand on est victime de terrorisme, soit on a fait des études de droit, soit on n'y connaît rien. À un moment, on finit par comprendre quand même que le procès va être complètement hors norme, pas la norme judiciaire, mais la norme organisationnelle, et notamment que ça va durer des mois et des mois. Et encore une fois, le rôle d'une association, c'est plein de choses, mais c'est de s'assurer que les gens peuvent se reconstruire et que le terrorisme ne va pas tout écraser dans leur vie, quoi. Et donc, on comprend aussi qu'il y a une question de logistique autour de comment est-ce que les gens vont pouvoir suivre le procès. Donc, on nous dit « Ah, ben, on pourra vous payer les nuits d'hôtel, on pourra vous payer les déplacements. » Oui, ok, mais au fond, on aimerait pouvoir assister à ce procès un peu comme on veut, et on aimerait quand même avoir un accès privilégié par rapport au grand public. Et donc, ça a été ça, notre commande. Et moi, quand je dis ça, je n'ai pas forcément d'idée de comment est-ce qu'on peut faire. Et un jour, on me propose un rendez-vous un soir avec le premier président et avec la procureure générale auprès de la cour d'appel et avec leurs deux directeurs de cabinet, dont Julien Eutti et Julien Quéret. Et on m'explique qu'il y a un projet de faire une web télé. Donc moi, je suis là avec mon avocat, qui donc lui, pour le coup, a l'expérience de la justice et pas de ma génération. Et en fait, on a des visions un peu opposées sur le sujet. Moi, je me dis, bah oui, une web télé, parfait. Et lui dit, mais attention, il y a la sérénité des débats. Évidemment, l'audience est publique, mais il y a quand même une raison pour laquelle elle se déroule dans une enceinte judiciaire. Voilà, un avocat qui pose une question, un avocat qui fait sa plaidoirie, c'est pas la même chose s'il sait qu'il est filmé. Et en fait, on me rappelle après, je pense que c'est Julien Quéret qui me rappelle et qui me dit bah, « en fait, ça ne va pas pouvoir se faire » pour une raison qu'on avait peut-être sous-évaluée, qui est celle de la sécurité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre les images des magistrats qui jugent alors que c'est des gens qui sont déjà protégés pour la durée du procès, mais est-ce qu'il va falloir les protéger à vie ? Parce qu'ils risquent quand même de condamner à des lourdes peines des terroristes. Est-ce qu'on va filmer les terroristes ? Est-ce que donc on va donner à la propagande de l'État islamique la capacité d'isoler certains mamans avec des images des accusés qui vont peut-être réciter une profession de foi, qui vont peut-être vraiment eux reprendre de la propagande dans le box, et donc ça, le montage va être dévastateur. Comment est-ce qu'on fait face à ce risque de fuite ? Et puis au fond, le droit à l'image de tout un chacun, comment est-ce qu'on fait ? Et donc moi, face à cette question-là, mon premier réflexe, c'est de dire « Ok, le problème, c'est l'image, pas le son. Est-ce qu'on ne peut pas juste avoir le son ?» Voilà. Et en fait, c'était pas très réfléchi comme approche. Et c'est vraiment la justice qui a dit « Bah oui, en fait, la web radio, ça marche. » Et donc, on va faire l'enregistrement des images pour une archive historique. Mais on peut probablement diffuser les sons. Et pour répondre à la question, et ça, moi, j'avais pas réfléchi et j'avais pas la réponse, à la question de l'usage par la propagande, bah en fait, on va mettre un décalage de 30 minutes. Comme ça, s'il y a vraiment quelque chose qui pourrait risquer d'être piraté, sachant qu'en plus, on va faire en sorte que ce soit pas piratable, et ben ça, on va se donner 30 minutes pour pouvoir le censurer.
Ah bah voilà. Tout devient plus clair dans le cheminement qui a abouti à la web radio. Y compris cette question du décalage de 30 minutes, qui s'explique tout à fait. Mais malgré ces précautions, Arthur ajoute que les avocats étaient au départ moyen chaud. Et ça, ça m'intrigue.
Moi, ce que je comprends de la réticence des avocats, c'est de se dire on va se rajouter une pression supplémentaire, on va être jugé par beaucoup plus de monde, on sait jamais, ça peut quand même fuiter. Il y a des choses dans l'exercice du métier d'avocat qui décontextualisées peuvent être quand même assez dévastatrices. C'est-à-dire que un avocat de la défense qui doit défendre un terroriste, évidemment, il défend pas le terrorisme, mais vous voyez bien le genre de montage qu'on pourrait en faire. Bon, c'est là que c'est nécessaire de rajouter une loi disant pas de diffusion, que c'est nécessaire d'avoir vraiment un accès et que l'accès soit très restreint et qu'il soit restreint qu'aux parties civiles. Ça, il faut quand même insister là-dessus. C'est-à-dire que nos avocats n'avaient pas accès à la web radio. Et ça, c'est un renversement. En général, les parties civiles sont ceux qui ont le moins de droits dans la salle d'audience et qui ont le moins de droits au procès, c'est les professionnels qui ont des droits supplémentaires. Et
vous croyez que ce renversement, il a changé quelque chose au procès, au rapport entre les parties civiles et leurs avocats, peut-être au cours du procès ? Pour le long terme, c'est très difficile à dire, mais est-ce que vous pensez que ça a fait varier des petits trucs ?
Moi, je pense que ça a quand même fait changer quelque chose. Et hier, j'ai participé à une formation des jeunes avocats avec notamment une avocate de partie civile et un avocat de la défense. Et l'avocate de partie civile disait... Nous, ce que la web radio a beaucoup changé, c'est que pendant l'audience, on recevait des mails de gens qui disaient « Tiens, l'accusé a dit ça, mais je sais que dans le dossier, il y a quelque chose qui vient contredire. » Et donc, ils envoyaient un mail, sauf qu'il y avait les 30 minutes de décalage. Et elle dit « Donc moi, j'ai dû mettre ma collab à gérer les mails envoyés avec un décalage pour voir si on pouvait essayer d'y revenir et poser la question. » Et donc, je pense que les avocats ont quand même compris qu'on était toujours là et qu'ils ne pouvaient pas se passer un procès entièrement entre professionnels. Et donc, je pense que ça a rajouté un petit niveau d'exigence et peut-être, quelque part, un contrôle qualité du travail des avocats.
Alors ça, c'est absolument passionnant. Que la web radio ait pu changer, même un tout petit peu, hein, même juste le temps de ce procès, qu'elle ait pu changer la relation entre les parties civiles et leurs avocats, c'est quand même assez dingue. En plus, dans un sens qui est assez intéressant, celui de donner plus de place aux parties civiles. Pas seulement une place passive de l'écoute, mais aussi, et peut-être que ça, c'était pas prévu au départ, une part active avec la possibilité d'écrire aux avocats pendant l'audience, par exemple. Et ça, ça dit quelque chose de la puissance du dispositif technique, de la manière aussi dont il est approprié, parfois même en détournant un peu l'usage initialement prévu. Moi, je trouve ça passionnant. Mais justement, en parlant de dispositif technique, est-ce que les parties civiles ont été associées aux choix techniques? Par exemple, les fonctionnalités de l'application, qui sont jamais neutres, hein.
De mémoire, on n'a pas été associé à beaucoup de choix. On a juste eu cette idée, qui je pense était partagée, mais à mon avis, c'est quand même les parties civiles qui l'ont dit, de dire « il faut qu'il y ait le numéro du psychologue qui s'affiche en grand ». Pour le reste, on était quand même dans le cadre de la commande publique et du passage d'un appel d'offres. Et donc, on n'a pas été associé aux choix techniques. Mmh. C'est toujours une question qui est assez globale, à laquelle il faut penser, qui est aussi l'équilibre. C'est-à-dire que dans un procès, on doit respecter les droits des parties civiles, mais aussi les droits de la défense. Et donc, c'est important que ce genre d'outil ne soit pas complètement fait à notre main. Je trouve ça assez sain qu'on n'ait pas été trop associés, quelque part. Bon, en plus, on n'est pas des techniciens du sujet.
Qu'est-ce que vous auriez fait qui puisse transformer cet outil en un outil à votre main?
Moi, je pense que la modification principale qu'on aurait faite, c'était la capacité de rembobiner la journée. C'était quand même la capacité de réécouter l'intégralité de l'audience du jour. Qu'il n'y ait pas les archives des autres journées, je comprends, mais qu'il y ait la possibilité de revenir un peu en arrière pour celui qui a mal entendu, celui qui a raté un moment. Je pense que ça, on aurait quand même apprécié de l'avoir. On comprend que le principe des débats, c'est l'oralité, et que donc, dans la salle d'audience, il n'y a pas cette possibilité-là, donc c'est normal qu'elle ne soit pas en miroir sur la web radio. Donc nous, je pense qu'on se serait fait quelque chose qui, en fait, était vraiment une surcouche plus confortable que l'expérience de la salle d'audience et que la justice avait quand même vocation à veiller à ce qu'on ne fasse pas une expérience meilleure à distance que sur place.
Passionnant encore, cette question. J'avais pas pensé, mais c'est évident que ça aurait posé problème si des choix techniques comme le rembobinage, par exemple, hein, rendait meilleure l'expérience à distance allouée seulement aux parties civiles. J'avais pas du tout pensé au fait que l'équilibre des parties dans un procès, eh ben, ça doit aussi être un équilibre des expériences du procès. Un équilibre dans l'écoute de la parole. Pas de raison que les uns aient plus de maîtrise de cette écoute que les autres. Donc, en l'occurrence, on se prive d'une possibilité technique pour garantir cet équilibre. Enfin, c'est en tout cas l'interprétation d'Arthur. Arthur a déjà dit que, de son point de vue, qui est celui de son association aussi, la web radio avait été très importante. Alors, avant qu'on en termine, j'ai quand même une question. Est-ce que, malgré tout, il a regretté à certains moments d'être à l'écoute de la web radio et pas physiquement présent à l'audience?
Oui, j'ai notamment en tête un des moments où Salah Abdeslam a pleuré. Et c'est, en tout cas pour moi, beaucoup plus difficile de jauger de la sincérité de ses paroles, sachant que c'est un peu un exercice obligé pour la victime de se dire est-ce qu'il est en train de mentir ou est-ce qu'il n'est pas en train de mentir, sachant que c'est un droit de mentir. C'est assez dur de juste juger de ça à la web radio. Et donc, quand vous avez des commentaires après qui vous disent « les yeux rougis par les larmes », il y a la moitié qui sous-entend que c'était des larmes factices, l'autre moitié qui dit « pris par l'émotion ». Vous vous dites « j'aurais été là, j'aurais été capable quand même de mieux juger des choses ». Et donc ça, c'est un peu le problème du son. Et puis, bah, il ne faut pas oublier qu'un procès, c'est aussi plein d'à côté. Hein. C'est aussi une salle des pas perdus, c'est aussi se parler entre nous. Et notamment, je sais que j'ai raté le témoignage de mon vice-président, qui est vraiment un copain très proche, que je l'ai entendu à la web radio. J'aurais préféré être là. Voilà. Parce qu'il y a quand même dans la justice ce côté, je crois que c'est une phrase de ou Antoine Garapon ou Denis Salas, qui sont des grands penseurs de la justice. C'est une cérémonie de parole. Mais cette cérémonie, elle est quand même pensée pour être faite dans un lieu clos, où il y a un peu unité de lieu, unité de temps. Et donc, dans les moments très très forts en émotion, c'est quand même pas mal de communier tous ensemble. Il y a un côté très religieux à tout ça.
Religieux, carrément. Eh bien, si c'est le cas, j'en déduis que la web radio serait donc un outil de sécularisation du procès, dans la mesure où elle dépouille le procès d'une part du rituel, en tout cas qu'elle réduit ce rituel à la parole, en lui ôtant toute une part du décorum, qui passe par l'architecture de la salle, la gestuelle et les tenues des différents acteurs, les robes et les mouvements des avocats, le fait de se lever à l'entrée de la cour, etc., qui passe aussi par la création d'une communauté des participants à l'audience, qui se regardent, qui chuchotent, qui discutent, et bien tout ça, ça disparaît dans la web radio. C'est très intéressant. Hein. Et ça participe sans doute à un autre rapport à ce qui se passe pendant le procès, nécessairement. Est-ce que c'est un rapport moins religieux? Je sais pas. Bon, arrivé là, même si j'y vois déjà plus clair sur ce qu'a été la web radio, il reste pas mal de questions en suspens. Comment l'institution judiciaire a mis en place ce truc, avec quelles précautions juridiques et techniques pour éviter les fuites dont parlait Arthur notamment? Comment a été imaginée l'appli, son design? Quel bilan du point de vue de la justice? Est-ce que l'expérience est vouée à être répliquée dans d'autres procès? Est-ce qu'elle a été? Pour répondre à tout ça, Arthur m'a donné le numéro du magistrat qui a été en charge de l'organisation logistique du procès, Julien Quéré. Il l'a déjà mentionné à plusieurs reprises. Alors j'ai appelé Julien Quéré. Quand je l'ai eu, il m'a dit « Ok, venez me voir au palais de justice, je vous raconterai. » Et puis, il y a cette histoire du numéro affiché sur l'appli avec des psys au bout. Alors ça, ça m'intrigue. Qui les a appelés? Pour dire quoi? Qu'est-ce que ces appels révèlent de cette expérience particulière de l'écoute d'un procès? Il va bien falloir que je parle à un psy. Une fois n'est pas coutume.
Xavier de la Porte.
Tout ça, et d'autres choses encore, eh ben ce sera pour le prochain épisode.